Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de la force des raisons au pluriel, notamment en médecine et en logique, avec le philosophe Ali Ben Makhlouf, et les répercussions de la raison au singulier ou des raisons dans les contextes islamiques contemporains. Ali Ben Makhlouf, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir nous édifier, comme à l'accoutumée à chaque fois où vous venez nous voir, par vos propos, le fruit de vos travaux. Je rappelle pour les auditeurs que vous êtes agrégé de philosophie, professeur à l'université Paris-Est Créteil, membre senior de l'Institut universitaire de France. Vous êtes aussi membre associé de l'Académie de pharmacie.
C'est ça.
Et vous étiez aussi membre du Conseil consultatif national d'éthique.
Oui.
Récemment, vous vous êtes intéressé à l'intégration, si j'ose dire, de la réflexion arabo-islamique quant aux questions de logique et de médecine.
Oui.
Et alors, pourquoi est-ce que la raison est pour vous au pluriel ? Est-ce que c'est comme on parle de raison juridique, raison philosophique, raison religieuse, raison théologique, c'est ça pour vous ?
Il est vrai que mettre au pluriel la raison, ça peut parfois troubler par rapport à la raison comme faculté, mais en fait, la force des raisons, le titre de cet ouvrage paru chez Fayard, c'est la force en fait des arguments que l'on présente. Donc c'est autour de ce que, dans la tradition arabo-musulmane, quelqu'un comme Al-Kindi appelait Al-Hujjah wal-barahin, les preuves et les démonstrations. Et donc, c'est autour de l'argumentation qu'elle soit prise au sens fort d'une démonstration ou au sens d'une dialectique de présenter une thèse, présenter une objection à une thèse. En fait, la force des arguments, oui. Comment on les pondère.
Vous avez évoqué Al-Kindi, l'Al-Kindus des latins, 801-872, pour donner une sorte de trajectoire de vie ponctuée par deux dates généralement admises. Et il est considéré comme le premier philosophe en contexte islamique de souche arabe. Voilà, j'utilise le terme souche arabe. Mmh. Et donc, les preuves et les démonstrations vous ont amené à utiliser raison. Comme on dit, c'est la raison pour laquelle il y a telle ou telle chose.
Exactement.
Et ce n'est pas la raison au sens de ratio,
De la faculté.
De la faculté. J'ai toujours entendu parler, par exemple, de la raison juridique.
Oui, oui.
Ou de la raison mathématique, oui. Ou de la raison logique.
Oui.
Et alors maintenant, les raisons, ou la force des raisons, oui. En logique et en médecine.
Oui, parce que il se trouve que dans mon parcours, j'ai beaucoup travaillé la logique dans un premier temps, la logique contemporaine,
vous
mathématique.
Êtes logicien, oui.
Voilà, de formation. Et je me suis très vite rendu compte que cette logique était articulée à sa propre histoire. Et l'histoire de la logique, eh bien, les Arabes se sont magnifiés en cette histoire, que ce soit Ibn Sina, Avicenne, Averroès. Et dans cette histoire de la logique, et donc voilà le parcours, de la logique à l'histoire de la logique, et puis en regardant l'histoire de la logique médiévale, je me suis rendu compte que ces logiciens étaient en même temps des médecins. Et donc, les argumentations que je développe dans cet ouvrage sont des argumentations logiques et en même temps des preuves factuelles qui sont données en médecine. Et pour ma part, moi, mon parcours a été d'abord dans la logique, puis comme vous l'avez mentionné, les sciences médicales, en raison de mon appartenance au Comité consultatif national d'éthique pendant 8 ans, j'ai fait 2 mandats, j'ai fréquenté beaucoup de médecins, et curieusement, je me suis retrouvé dans un bain, je dirais presque naturel, de voir que ces philosophes médiévaux étaient logiciens et médecins, et que moi, ma foi, bien sûr, je ne vais pas me comparer à eux, mais j'ai développé ces deux types d'argumentation, que sont les argumentations logiques et les argumentations médicales qui reposent sur des preuves factuelles.
Alors Ali Ben Mokhlouf, que dites-vous à ceux qui objectent que, surtout pour vous qui êtes un disciple de par le temps d'un Frege ou d'un Whitehead, oui, et en même temps vous êtes un lecteur assidu de Montaigne et avant lui de d'Averroès, que la logique a obéi à une à sa propre logique intrinsèque, si j'ose dire, alors que la médecine c'est la science du vivant, oui, et la science du vivant n'obéit pas à des critères du même ordre que ceux de la logique.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est pas du tout le même ordre de raison. Il se trouve que tout de même, la médecine s'est développée dans le souci d'avoir les bonnes dénominations. Et donc, dans la recherche d'un langage spécifique, quel nom va être mis sur telle maladie, les éléments diagnostiques et effectivement après prévisionnels et pronostiques ont tout de suite indiqué un souci de langue et de logique dans le cadre même de la médecine. La médecine, on parle très très souvent du jugement clinique, mais le jugement clinique sans le raisonnement qui repose sur des cohortes à partir desquelles on fait des observations, eh bien, ce jugement, on l'a dit, souvent, il est paternaliste, il repose sur la simple autorité de celui qui fait son propre diagnostic, alors qu'en réalité, le jugement médical va toujours de pair avec le raisonnement médical. C'est pourquoi j'ai utilisé depuis tout à l'heure l'expression de preuve factuelle. Ce ne sont pas des preuves démonstrative, axiomatique. Et c'est là la différence, pour vous répondre spécifiquement sur le mode de raisonnement logique et le mode de raisonnement médical. Le mode de raisonnement logique repose majoritairement sur des axiomes et des théorèmes quand on se place du point de vue de la logique mathématique. Et là, nous sommes sur des preuves factuelles et non pas axiomatiques. Et ces preuves factuelles font que, fort heureusement, on appelle ça aujourd'hui l'evidence-based medicine, la médecine qui repose sur des preuves. Et cette médecine-là, justement, a mis en évidence l'importance d'observations statistiques. Donc, un apprentissage statistique au secours du jugement médical. Et cet apprentissage statistique, ma foi, il y a beaucoup de logique dedans. Voilà comment les choses se combinent, tout en étant, je vous l'accorde, hétérogène à la base.
L'idée, c'est que, si je vous suis bien, Ali Ben Mokhlouf, c'est que la médecine, avec le jugement clinique, c'est d'établir le bon diagnostic afin de lui trouver la médication appropriée, et ceci obéit à une logique propre.
Exactement, qu'on appelle le raisonnement médical. Et ce raisonnement médical, c'est précisément avoir un échantillon assez large pour pouvoir se prononcer. On le voit par exemple dans les épidémies, quand arrive dans un service une personne atteinte, elle n'est pas emblématique tant qu'on ne se rend pas compte que ça touche précisément toute une partie de la population. Et cet aspect de la santé publique fait que les statistiques entrent de manière forte chez les épidémiologistes et chez donc les spécialistes de la santé publique. Il y a d'une part cela, il y a aussi d'autre part, aujourd'hui, je parle pour ce qui est d'aujourd'hui, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle qui permet d'observer précisément les aires du cerveau qui sont mobilisés. Cette imagerie par résonance magnétique suppose elle aussi tout un travail de récurrence ou d'occurrence fréquente des personnes que l'on observe, parce que observer un seul cerveau ne suffit pas. Donc si vous voulez, l'élément statistique est un élément majeur aujourd'hui dans le raisonnement mathématique, dans le raisonnement, je fais le lapsus mathématique, oui, mais les mathématiques au service donc du jugement clinique, bien évidemment.
Alors je ne m'empêche pas de faire un parallèle avec d'autres disciplines, et notamment celles qui relèvent de ce qu'on appelle communément, et peut-être même d'une manière abusive, les sciences dures, oui, où l'on est passé d'une structure ou d'une approche causale de l'univers et de la matière à une approche plutôt statistique. Et là, vous pensez qu'on est un peu dans la même situation, on laisse place davantage à une approche statistique pour établir un diagnostic qu'une approche causale ou un peu les deux.
Merci, c'est une distinction majeure que vous venez de faire. Aborder les choses par les causes et les aborder par les raisons, c'est pas la même chose. Si vous vous arrêtez à un stop, il y a une raison pour le faire, c'est-à-dire vous pouvez ne pas vous arrêter. Et cette dualité de l'affirmation et de la négation existe pour les raisons. Pour les causes, non. S'il y a des nuages sombres, ça signifie tout de suite pluie. Ça peut pas être ou pas. Donc, si vous voulez, les causes sont physiques, les raisons sont logiques. Et bien évidemment, la médecine, en raison de sa base physiologique, mobilise beaucoup de causalité au sens de la causalité physique. Mais cette causalité physique, sans un raisonnement logique, si vous voulez, elle ne serait pas très très signifiante. C'est pour ça que finalement, il y a un croisement des deux, des causes physiques ou physiologiques, des raisons logiques, et ce croisement, en particulier, on le voit fonctionner dans l'apprentissage statistique à la base, par exemple, des campagnes faites pour la prévention en santé publique ou pour la reconnaissance du périmètre des épidémies.
Ali Ben Makhlouf, je ne résiste pas à l'idée de revenir à votre exemple de l'arrêt au stop.
Oui.
Si je m'arrête au stop, c'est qu'il y a la raison qui fait de moi un automobiliste responsable et un citoyen sérieux et que je n'ai pas envie d'occasionner un accident quelconque. En revanche, si je ne m'arrête pas et qu'il y a un accident, la cause de l'accident, c'est mon incivisme ou mon incivilité, en l'espèce, voire mon délit.
Oui, tout à fait. Et surtout, si vous voulez, le stop n'agit pas sur vous comme une cause physique, comme le nuage agit sur la pluie. Il agit sur vous en s'adressant à votre capacité de choix. Et c'est cette dualité qu'on n'a pas directement dans les causes physiques. Cela dit, vous avez raison, après la logique qui fait que je ne m'arrête pas par infraction de la loi a une répercussion physique directe, malheureusement, l'accident.
Oui. Maintenant, j'ai une question à propos des médecins, en même temps logiciens du Moyen-Âge. Ils se trouvent, sans apologie mièvre aucune, pour cette période-là, qui avait des médecins logiciens arabo-musulmans ou musulmans d'expression arabe dans les contextes islamiques. Et pensez-vous qu'il y a, depuis cette époque jusqu'à nos jours, une sorte de continuum, ou y a-t-il une rupture dans le raisonnement médical ou dans l'établissement des diagnostics?
Alors, deux possibilité de vous répondre. La première, c'est que d'abord, il y a une affinité profonde entre la méthode médiévale et la méthode contemporaine en philosophie des sciences. Dans les deux cas, la logique a un aspect fondationnel. C'est ce qui rapproche beaucoup le médiéval du contemporain, c'est que la logique est véritablement fondationnelle. Je suis quelqu'un qui travaille sur Frege et Averroès. D'autres travaillent sur Duns-Scott et Foucault. Claudine Tiercelin au Collège de France travaille sur Peirce et sur Occam et Duns-Scott. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup d'affinités entre le médiéval et le contemporain, d'une part. D'autre part, effectivement, il y a, pour vous répondre sur la continuité, il y a eu comme une brisure, une rupture, parce que toute la période classique cartésienne, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas tellement mis l'accent sur la logique. Elle était défiante à l'égard de la logique aristotélicienne et a été promu le jugement qui était beaucoup plus important que, en quelque sorte, le raisonnement logique. Si bien que moi, je suis très heureux de pouvoir renouer avec nos chers médiévaux parce que eux avaient ce souci-là. Et directement pour la, je vous donne juste un exemple, un peu technique, mais quand même, on appelle ça les prédicats réunis ou séparés. Un tel est médecin, un tel est compétent. Un tel est médecin compétent. Est-ce que je peux dire que parce qu'il est compétent, d'une part, et médecin D'autre part, il est médecin compétent ou est-ce que ce sont deux propositions distinctes? C'est extraordinaire. Vous avez plein de médecins qui ne sont pas pour autant compétents, bien qu'ils soient compétents en musique ou en autre chose. Et donc ça, ça a animé beaucoup, beaucoup nos médiévaux sur l'unité de propositions pour qui rassemblent comme ça des attributs d'un tel ou d'un tel.
Oui. Je ne sais pas comment allez-vous commenter cette anecdote réelle ou supposée, relève-t-elle de la légende ou du génie d'un médecin comme Razès?
Oui.
En gros, 865-925, qui, pour établir son premier hôpital, à l'époque on disait le Bimaristan, oui. Cette appellation en langue persane qui dit « le lieu du malade », dans la ville de Bagdad, une ville ronde, mais il a choisi quatre coins, pour placer des morceaux de viande, et là où elle a moisi le moins, a pensé que c'était le lieu où il faut construire son hôpital.
Tout à fait.
Qui est en réalité plutôt une sorte de CHU, un centre hospitalo-universitaire, oui. Puisqu'il y a enseigné aussi la médecine. Et donc là, il a agi par de cause à effet, donc il y a un raisonnement logique.
Ah, tout à fait, c'est effectivement cette légende a une base réelle, c'est qu'effectivement on suspendait les viandes dans différents endroits de la ville pour trouver le lieu le plus sain. Il n'y avait pas les frigos, bien évidemment, et cela veut dire que il y avait aussi, ce qui est d'une très grande actualité aujourd'hui, un souci très grand de l'air et de l'environnement. C'est-à-dire que la santé n'avait pas de sens si on ne tenait pas compte de ce qu'on appelle aujourd'hui les écosystèmes. Et cette médecine, mais c'était déjà le cas dans la médecine de Galien et d'Hippocrate, a toujours considéré que la santé de l'individu dépendait pleinement de l'environnement, de la qualité de l'air, de la qualité des eaux, et donc, bien évidemment, de l'aspect sain de l'air que l'on respire et de la conservation possible des produits de la pharmacopée.
Oui. Alors, dans vos travaux de recherche, mais aussi dans cet ouvrage qui nous sert comme base de discussion ce matin, « La force des raisons », dans la logique et en médecine, chez Fayard, vous parlez aussi des questions qui relèvent de l'ontologie, donc oui. De l'être.
Oui.
Et en quoi les raisons relèvent-elles, pardonnez cette question comme ça de Béotien, de l'être?
Ah, alors... effectivement, l'ouvrage se répartit en plusieurs éléments. Et quand on se place du point de vue justement de la médecine, on est dans un cadre physiologique. Et dans ce cadre physiologique, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait en philosophie, là, je fonde mes arguments sur ceux de Quine et de Whitehead, des philosophes du XXe siècle, sur le fait qu'il fallait en quelque sorte descendre la philosophie le plus possible sur le terrain de la physiologie. Whitehead parle de décision organique, le jugement comme une décision organique. Il appelle ça un appât pour le sentir. C'est une façon, si vous voulez, de faire que le jugement n'est plus dans les hautes sphères de l'ontologie au sens de l'être, de non-être, Socrate est mortel, comment réfléchir sur la copule, etc. Mais on va se mettre à un niveau beaucoup plus, si vous voulez, de un appât pour le sentir. Il appelait cela un appât pour le sentir. Le jugement, un appât pour le sentir. Vous êtes indigné, vous craignez, vous avez de la joie. Donc, on va revenir à des formes de décision organique qui vous font juger de quelque chose. C'est cela, si vous voulez, cette ontologie qui descend dans le corps et que Quine, par la notion de stimulus, et Whitehead, par la notion de décision organique, ont mis en évidence.
Pensez-vous, pour établir un parallèle, notamment dans les sciences humaines, les sciences de l'homme et de la société, que tout aussi pour la sociologie, ne pas les laisser dans les cimes éthérées,
oui.
Revenir à des hommes et des femmes qui jouissent et qui souffrent.
Exactement. C'est prendre en compte complètement cet élément sentiment, de corps, et faire reposer toute l'épistémologie sur des bases, effectivement, de, oui, on peut dire, de réalité physiologique. Arriver à faire une physiophilosophie. Ça, c'était le grand projet de Quine et de Whitehead. Et vous voyez comment ces deux logiciens se sont, en quelque sorte, ramenés dans leurs travaux à ce niveau de stimulation, de scène aperçue, de manière dont nos terminaisons nerveuses interagissent dans l'univers.
Islam, Khaled Bencher.
Avec le philosophe Ali Ben Makhlouf, philosophe et logicien, votre œuvre, Ali Ben Makhlouf, c'est d'intégrer la pensée arabo-musulmane dans les contextes contemporains, notamment en logique et en médecine, pour voir s'il y a eu brisure ou continuité. Oui. Vous pensez qu'il y en a eu justement cette brisure, mais ça reste dans des affinités entre les médecins logiciens, notamment de ce qu'on appelle le Moyen-Âge maintenant, parce que ce sont des séquences de l'histoire qu'il faudrait savoir peut-être redéfinir ou revisiter. Ce qui fut Moyen-Âge pour les uns était un apogée civilisationnel aussi pour les autres. Ali Ben Makhlouf, pour revenir à quelqu'un que vous avez bien fréquenté et dont vous êtes sensible, je parle des travaux et de la réflexion, c'est Averroès. Vous pensez qu'on lui avait fait un mauvais procès, et le « on » c'est davantage Ernest Renan, quand il a considéré que le pauvre malheureux n'y n'a rien compris à la tragédie ou à la comédie, donc au tragique grec. Et vous avez une autre explication, et si je puis dire, vous venez au secours d'Averroès mal compris et maltraité, notamment par Ernest Renan.
Oui, Ernest Renan a participé au XIXe siècle à tout ce mouvement de dévalorisation de la philosophie arabo-musulmane. Il dit clairement qu'elle a été en pure imitation des Grecs, mais qu'elle n'a pas elle-même produit une philosophie à part entière. Cette décrédibilisation est une décrédibilisation de la conceptualité. J'irai plus loin, c'est une période de colonisation forte, de la colonisation de l'Algérie, et il y a une participation très forte de Renan, mais il n'est pas le seul, à l'idée qu'il faut dénier aux Arabes la conceptualité. On parle aujourd'hui de la décolonisation des savoirs, et c'est d'abord cette nécessité de reconnaître que ces philosophes ont une part entière et pleine dans la conceptualité, dans l'histoire de la philosophie. Donc, bien sûr, il discrédite la compréhension par Averroès de la tragédie grecque, vous l'avez dit, parce que il n'y avait pas de tragédie dans la Cordoue du XIIe siècle. Et Averroès a fait de la transposition conceptuelle sur fond d'un commentaire littéral d'Aristote. Quand Aristote dit « la tragédie consiste à représenter les gens meilleurs qu'ils sont », c'était une façon pour lui de dire « bon, ça rejoint l'éloge que l'on fait. » Ça rejoint, mais c'est une transposition, un aql, un transfert conceptuel. Mais c'est pas du tout l'idée qu'on se trompe ou qu'on se trompe pas. C'est quoi de juger les philosophes comme peut le faire Renan ? Je veux précisément à ce sujet dire combien la pertinence d'Averroès était forte et combien sa conceptualité était forte. Il est celui qui a, avec son école, a permis l'essor de la science, précisément dite, qui sera dite européenne, par une distinction, ça revient à notre première discussion sur logique et médecine, sur une distinction entre ce qui est vrai et ce qui est valide. Ma huwa haqq ou ma huwa sahih. Et le valide, comment, alors, le vrai, c'est tout ce qui concerne le religieux, puisque Allah yuhiqqu al-haqqa bi kalimatihi, Dieu établit la vérité par sa parole. Donc ça, c'est tout ce qui est du côté religieux. Mais la science ne s'occupe pas de vérité. Elle s'occupe de validité. Et ça, Renan ne l'a pas du tout vu. Et cette validité, il prend un exemple médical. Et c'est les sciences médicales qui servent d'appui à construire la validité scientifique. Il dit quand il faut emprunter aux autres, notamment les Grecs, ce qu'il y a de bon, après on rejette ce qui ne va pas.
Tout en les excusant, ajoute-t-il.
Exactement, oui, parce qu'ils ont fait un effort théorique et c'est toujours miséricordieux, pour reprendre ces expressions, de louer les gens qui ont fait un effort théorique. Et dit-il, il prend l'exemple de la fête du mouton, le sacrifice. Il dit, quand on fait le sacrifice du mouton, on ne demande pas d'où vient le couteau avec lequel on coupe. L'instrument, par exemple le syllogisme, le raisonnement, on ne demande pas d'où il vient, mais est-ce qu'il correspond aux bonnes conditions d'hygiène ? La validité du savoir, c'est ça qui compte, c'est pas son origine. Et ça, c'était pour justifier les apports grecs, mais en même temps, pour lancer cette distinction qui était inédite entre le vrai et le valide, comme Avicenne va faire une distinction inédite entre l'essence et l'existence. Il lit 40 fois la métaphysique d'Aristote et il en ressort une distinction qui ne s'y trouve pas. Donc, invention à partir de ces lectures, ce que font tous les philosophes. Et donc moi, pour reprendre votre expression première, intégration de la philosophie arabe au champ de la philosophie en général, c'est cela, c'est de reconnaître leur participation forte à la conceptualité. Ils ont été tellement étudiés qu'ils ont été anonymisés, et on se rend plus compte de leur apport, mais qu'on ne vienne pas me dire qu'ils sont simplement de pâles imitateurs.
Avicenne, lorsqu'il dit qu'il a lu 40 fois la métaphysique d'Aristote, il dit « je n'ai pas compris ». Et un beau jour, je me promène dans un souk et je vois sur un étal le commentaire de la métaphysique d'Aristote par Al-Farabi, l'Alfarabius des Latins. Et une fois que j'ai lu, et grâce à ce commentaire, tout est devenu clair et limpide. Et j'en tire comme moralité de cette histoire, c'est qu'il faut persévérer, oui, pour essayer de pénétrer, de comprendre, notamment l'œuvre des anciens. Avec les deux exemples que vous avez pris à Ali Ben Makhlouf, aussi bien à Avicenne, dans la distinction entre l'essence et l'existence, et aussi les deux registres d'Averroès avec la vérité et la validité, penseriez-vous que là, on a établi des registres épistémologiques différents qui aident au savoir ?
Toute la science copernicienne repose sur la distinction entre la vérité et la validité. Quand Copernic dit, Osiander, celui qui fait la préface de l'ouvrage de Copernic de 1543, des orbes célestes, laissons les nouvelles hypothèses, celles de Copernic, se faire savoir, parce qu'elles ne sont pas en concurrence avec la vérité, elles ne prétendent qu'à la vraisemblance, et elles ne prétendent qu'à mieux calculer. C'est de la commodité, c'est de la validité. Donc, tout l'enjeu de la validité, c'était précisément de laisser les nouvelles hypothèses se faire pour n'être pas en concurrence avec la vérité religieuse. Et ça, c'est un héritage des Averroïstes, Sigère de Brabant, tous ceux qui ont commenté Averroès à partir de cela. Averroès a eu cette destinée extraordinaire dans les sciences constituées durant donc la Renaissance et, les âges ultérieurs.
En vous écoutant, Ali Ben Makhlouf, je pense à ce que vous-même aviez dit dans le débat désormais classique et même sans fin entre foi et raison. Alors je prends raison cette fois-ci, non plus comme les raisons. Et vous dites, on confond l'idée que ici foi, c'est la superstition. Alors ce n'est pas la superstition, parce qu'on peut avoir foi en quelque chose. Et vous citez l'exemple de la foi en les droits de l'homme, la foi comme une croyance, mais pas une croyance superstitieuse, mais parce qu'il faut bien partir de quelque chose.
Exact.
Donc une approche à la fois axiomatique, et on a besoin d'un postulat de base
voilà.
pour concevoir et construire une armature
tout à
intellectuelle.
Fait. On fait un saut dans les droits de l'homme sans les discuter. Vous commencez à dire, est-ce qu'on va y croire ou est-ce qu'on va pas y croire? Ce ne sont pas des éléments de dialectique. Et donc, quand la Déclaration universelle des droits de l'homme dit, dans son cinquième considérant, les hommes ont foi dans les droits fondamentaux, elle utilise le mot de foi sans référence à la religion. Et donc, pour moi, ça c'est une façon de dire que la foi est totalement compatible avec des attitudes rationnelles et précisément défendre les droits de l'homme, c'est véritablement être dans une rationalité du partage de la responsabilité et de la promotion de l'autonomie de la famille humaine et donc c'est totalement compatible avec la raison. Et là aussi, cette dualité positiviste du 19e siècle, issue de Renan, qui consiste à dire la foi, on va la ramener aux âges obscurs d'une religion superstitieuse, a fait est une conception totalement délétère. Moi, je respecte beaucoup la piété des gens qui ont la foi, parce que cette piété est belle, cette piété est de part en part compatible avec le travail de la raison, et d'avoir construit cette dichotomie foi et raison est malheureusement une des crampes mentales que je dénonce dans tous les écrits que j'ai pu faire.
Alors, je ne vais pas charger davantage Ernest Renan, et pour qui, pour lui... La foi, et notamment dans les contextes islamiques, n'est rien d'autre qu'une tautologie, Dieu est Dieu.
Voilà. Il dit que les arabo-musulmans ont, depuis Averroès, répété une tautologie Dieu est Dieu, comme si ces sociétés n'avaient pas vécu. Vous savez, c'est terrible parce que c'est toute cette entreprise colonisatrice qui consiste à dire que ce sont des peuples endormis, il faut venir les réveiller de l'extérieur. Le traducteur de la Muqaddima d'Ibn Khaldoun de Slan, en 1863.
La Muqaddima étant les prolégomènes.
Les prolégomènes, donc, d'Ibn Khaldoun. Donc, Ibn Khaldoun, 1335-1406. Et son traducteur, en 1863, il dit, ce Ibn Khaldoun a des arguments embrouillés, comme peut le constater tout Européen aujourd'hui en rapport avec les musulmans. Ils ne savent pas raisonner. Il le dit clairement dans la préface. Et donc, c'est toujours ce déficit du concept qui est projeté sur les philosophes, qu'ils soient médiévaux ou tardivement médiévaux, comme Ibn Khaldoun. Donc, précisément, moi, je dénonce cela. Et vous savez, il y a quelque chose qui est resté fort de ce point-là, c'est que la philosophie arabe a connu un âge d'or, et puis après le déclin. Et moi, toute cette histoire de âge d'or et de déclin, mais complètement étrangère. Je trouve qu'elle sert les buts de la colonisation. Il y a des peuples endormis qu'on va venir réveiller. On va leur apporter une mission civilisatrice. Même, je conteste le mot de renaissance en Égypte. La renaissance, la Nahda. Renaissance, ça veut dire que les gens dormaient. Nahda, comme vous le savez, comme moi, en arabe, ça veut dire se tenir debout. C'est pas renaître. Personne n'a jamais été endormi. La manière, le démantèlement qui a été fait par la France en Algérie de la jurisprudence musulmane, le démantèlement de la charia, pour dire que c'était quelque chose d'obsolète. On le voit encore aujourd'hui, la charia c'est obsolète. Mais ça c'était propos colonialistes. La jurisprudence musulmane n'a pas cessé de s'historiser et de se contextualiser depuis les premières créations des écoles médiévales au 8e et au 9e siècle. Il y a une histoire de la charia, il y a une histoire de la jurisprudence musulmane. Et maintenant, depuis la colonisation française, ça fait 2 siècles, on ne cesse de nous rebattre les oreilles avec l'idée que c'est quelque chose d'anhistorique qui se trouve dans un texte sacré violent. Si vous voulez, les effets délétères de ce rapport à cette période classique médiévale arabe que moi j'ai beaucoup travaillé et que je veux complètement sortir de ces ornières-là, ces effets sont encore immédiats autour de nous aujourd'hui.
Pour revenir simplement au vocable charia, c'est vrai que si on le restitue et on le ramène à son contexte, on voit d'abord que c'est une de ces acceptions, c'est une loi, voire aussi du droit positif, parce que sinon il n'y aurait pas eu 4 écoles, il y en a eu même davantage, on aurait pu en avoir 5, on aurait pu en avoir 3. Donc l'élément humain est très important. Mais comment expliquez-vous, c'est une question annexe, le glissement qui s'est fait, y compris chez certains musulmans eux-mêmes, je peux ajouter moi-même le premier, que par déficit de connaissances, que c'est devenu une loi pour laquelle on a pénétré la volonté divine, on a scruté son désir de vouloir légiférer pour les hommes.
Parce qu'on a, je pense, confondu la source et le contenu. La source est religieuse incontestablement. Le texte sacré, que ce soit le Coran ou les 10 prophétiques, joue comme source, mais une source n'a jamais été un contenu. Et donc, le contenu, lui, se contextualise tout le temps, et la source est religieuse. Tout le droit, précisément, canonique dans la chrétienté...
Le jus canonicum, le droit
canon. A pris tout le temps appui sur les textes sacrés, mais c'est une source, une inspiration, et pas un contenu. Et maintenant, quand on met le contenu dans le texte, c'est là, si vous voulez, ce que j'appelle l'advenue d'une crampe mentale.
Oui, des crampes mentales, des consciences apeurées et culpabilisées. Et alors, par la connaissance, on assainit toutes ces scories, on guérit par ce que j'appelle par moment les scléroses en place. C'est par la connaissance et ce travail de réincorporation, ne pas dire d'intégration, de la réflexion arabo-musulmane dans les contextes de connaissance de nos jours.
Tout à fait. Prenons les attentats de 2015. On a sorti le journal Le Monde à demander à des philosophes de faire un supplément sur la tolérance. Aucun texte des philosophes arabes ne figure. On n'a contacté personne pour cela. On a donné des textes de Platon, d'Aristote, de Descartes, de Pascal, de Locke, de Hegel, de Kant, comme si cette tradition n'avait pas été tolérante. Pour moi, j'appelle ça de l'ignorance délibérée, de l'ignorance, si vous voulez, qui est complètement conçu, su et diffusé. On ne peut pas faire un supplément après ces attentats épouvantables en 2015 sans essayer de dire, eh bien, regardez précisément ce qui se passe dans cette culture. Résultat, l'islamisme est devenu l'étalon de mesure pour parler de l'islam. Vous ne pouvez plus parler de l'islam si vous ne vous situez pas par rapport à l'islamisme. Mais l'islamisme, c'est un extrémisme, c'est un mouvement complètement de côté. Comme dit Montaigne si bien, les extrêmes, tout ce qui est extrême ne dure pas. Montaigne, c'est une religion de 15 siècles et tout ce qui est extrême ne dure pas, mais elle dure parce qu'elle n'est précisément pas dans l'extrême. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus parler la plupart du temps de l'islam sans que vous vous situez par rapport à l'islamisme. Mais pourquoi le prendre comme étalon de mesure ? Je citais les prolégomènes d'Ibn Khaldoun. À chaque fois qu'il parle d'islam, son traducteur de cela, mais islamisme en 1863. L'islam, c'était l'islamisme déjà. Et si vous voulez, cette transmission de cette religion sous la forme de ces extrêmes est une façon, bien évidemment, de la décrédibiliser tout le temps. Et cela devient, à mon sens, totalement urgent de ramener la raison, puis on parle de raison depuis tout à l'heure, de ramener la raison sur une connaissance partagée et non plus une ignorance délibérée.
Ali Ben Makhlouf, ce n'est pas pour plaider la cause de Doslan, mais n'était-il pas dans une logique que les traditions religieuses finissaient avec le suffixe « isme » comme pour le judaïsme ou le christianisme? Donc pour le 19e siècle, il était dans l'ordre naturel des choses de parler d'islamisme. Après ces parties, puis on en revient avec Bruno Etienne et d'autres à l'islamisme radical dans son acception d'une idéologisation, d'une politisation de la tradition religieuse pour d'autres fins que spirituelles.
C'est vrai qu'on peut dire que l'islamisme tel qu'il l'entendait était une façon de mettre un isme sans préjuger de la chose, comme on a pu parler des mahométans au lieu des musulmans avant, etc. Je ne vais pas me crisper sur l'expression, mais tout de même, je constate, si vous voulez, qu'il y a ce poids-là. De même, par exemple, là, il y a une très belle thèse qui va paraître le en français, ou qui est même déjà parue, j'ai pas vérifié, mais moi je l'ai lu en anglais, « L'architecture de la contre-révolution, l'armée française face à la femme algérienne ». Mais la femme algérienne pour l'armée française, c'était la femme musulmane. Elle a jamais été considérée comme une femme algérienne. Donc il y a toujours cette projection de l'islam sur des gens qui ne se définissent pas d'abord par rapport à cela.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, avec le philosophe Ali Ben Makhlouf, nous parlons de la force des raisons, raisons au pluriel comprises au sens d'arguments, les arguments, les preuves et les arguments, pour reprendre une expression du philosophe Al-Kindi. Et pour ce travail qui s'est dont le fruit est cet ouvrage paru chez Fayard, « La force des raisons », notamment en logique et en médecine, c'est de réhabiliter, réincorporer, mais vous ne le faites pas avec une action militante, vous le faites avec la sérénité du savoir, pour intégrer dans un continuum depuis les anciens, les Grecs, comme les arabo-musulmans eux-mêmes les désignaient, jusqu'à nos jours, de l'importance à la fois de la réflexion, de la connaissance et du savoir. Et ça nous amène à l'idée que s'il n'y a pas mieux que la connaissance et la culture pour dirimer les thèses fondamentalistes et le fanatisme.
Oui, effectivement. Le travail intellectuel, c'est le travail de reconnaissance que toutes les cultures ont leur part dans la compréhension du monde. C'est ça. Il n'y a pas des cultures qui comprennent le monde mieux que d'autres. C'est quand même un enjeu très très important. Et moi, quand je lis précisément ces philosophes médiévaux, je vois la force justement de ces arguments. Je vois la force de ces raisons. Et cette manière de les marginaliser dans l'enseignement est pour moi quelque chose de... Oui, je finis par me dire, c'est une ignorance, oui, délibérée, je me répète. Maintenant, si vous voulez, moi, mon projet, Merci d'avoir dit, c'est pas le militantisme, c'est la réflexion. Mon projet, c'est pas d'aller combattre les extrémistes. Ça, c'est le projet de tous les citoyens. En tant que citoyen, oui, mais en tant que philosophe, c'est pas eux que j'ai en ligne de mire. Moi, j'ai en ligne de mire la transmission. J'ai en ligne de mire l'intégration, comme vous l'avez dit, et l'incorporation de cette philosophie dans cela. En tant que citoyen, bien évidemment, je lutte contre ces extrémismes, bien évidemment, mais ça ne me donne aucun droit en tant que philosophe d'en parler plus. Une fois, j'ai été prise à partie, je faisais une conférence au Maroc et quelqu'un m'a dit « Vous nous parlez de Montaigne au moment que le monde brûle !» C'était les grands moments de Daesh, etc. Mais j'ai dit « Mais monsieur, je n'ai pas plus de droit que vous ?» Sur la lutte contre Daesh, c'est en tant que philosophe, je ne suis pas placé dans une citoyenneté supérieure. Nous sommes tous citoyens de la même façon pour lutter contre ce qui menace le fait d'être ensemble, la Asabiya d'Ibn Khaldoun, le fait, je dis pas vivre ensemble,
la cohésion,
exactement, la solidarité organique, la solidarité organique, les philosophes ne sont pas détenteurs plus que les autres. Et dans ce projet, pour rester sur votre question aujourd'hui, ce projet, moi, me mobilise dans l'importance de la traduction, l'importance de la transmission, dans des deux côtés de la Méditerranée, comme on dit si bien. J'interviens de plus en plus au Maroc, curieusement dans les facultés de médecine, compte tenu de l'éthique médicale que j'ai développée, et je suis sollicité beaucoup par les comités locaux au Maroc sur cette question d'éthique médicale, et j'avoue que je suis très très content de mettre en œuvre ce que Canguilhem disait, toute bonne matière pour la philosophie est étrangère, toute matière étrangère est bonne. C'est-à-dire que la philosophie a besoin de l'anthropologie, a besoin de la médecine, a besoin de la logique dans ses raisonnements rigoureux, et c'est comme ça qu'on déploie cette logique. Et moi, quand je lis les philosophes arabes, eh bien, je me sens en phase avec ce travail qu'ils faisaient. Ils ont été regardés du côté de la pharmacopée, du côté de la médecine, du côté de la logique, du côté des sciences autre que précisément une philosophie qui se commente elle-même. C'est très important. Mais en se commentant elle-même, ce qu'elle vit, c'est toujours la compréhension du monde.
Ali Ben Makhlouf, dites-moi si je me trompe. Est-ce que je ne perçois pas dans vos propos et dans cet entretien très riche et dont je vous remercie, qu'il y a... Vous déplorez, dans votre phrase à deux reprises qui est revenue, cette ignorance délibérée, une présentation de l'histoire mutilée et mutilante, et qu'il faut peut-être revoir cette présentation de l'histoire, non pas pour dire que les philosophes arabo-musulmans furent grands, mais simplement reconnaître leur contribution au corpus du savoir universel. Et l'exemple, le second exemple que vous avez donné à propos de la tolérance, même si j'ai dit à ce micro quelquefois que la tolérance, il y a des maisons pour cela, comme disait Claudel, reprenant une phrase de Peggy, mais que la réflexion sur at-tasamuh, un terme arabe qui dit une sorte de demande de pardon réciproque, a été une réflexion menée, bien forgée, et qu'on la trouve chez les humanistes d'expression arabe.
Ah oui, tout à fait. Il y a une très belle expression dans les adages. Moi, je suis très preneur des adages, la manière dont les gens font leur raisonnement en raccourci tous les jours, les proverbes et les adages. J'ai toujours entendu, quand il y a un conflit entre les personnes, mais enfin, Dieu lui-même pardonne, a fortiori les hommes pourraient pardonner. Donc, si vous voulez, il y a toute cette tradition du tsasamuh qui est très très importante. Je suis tout à fait d'accord avec vous, j'ai aussi les réserves sur le mot de tolérance, mais c'est juste un mot pour un autre, pour dire une réalité, pour ne pas rester justement dans les mots. Vous avez donné ce mot magnifique de tsasamuh, et c'est pourquoi je l'ai commenté en termes de pardon, parce qu'il combine, et ça c'est la difficulté de la traduction, à la fois la notion de pardon et la notion d'être pacifié dans sa relation avec les autres. Et si vous voulez, bien évidemment, dans l'islam, il y a une belle tradition de cela. Il suffit juste de lire les textes, et aussi à propos de l'ignorance délibérée, cessons de dire que le savoir, c'est, dans sa transmission, c'est Jérusalem, Rome, Oxford, Paris. Il y a aussi Tlemcen, Grenade, Tombouctou, Fès.
Marrakech.
Il y a Marrakech. Je veux dire, il y a plusieurs centralités. Bien évidemment, les autres centralités décentrées de ce qu'on appelle l'Amérique latine aujourd'hui et de l'Asie. Et de plus en plus, si vous voulez, il faut reconnaître la multiplicité des foyers et des centres qui font que une pensée s'éclot et se développe. Arrêtons l'ethnocentrisme.
Ali Ben Makhlouf, que diriez-vous à ceux qui disent, que ce soit dans les contextes islamiques contemporains ou même les contenteurs de l'islam d'une manière générale, même si le vocable a besoin d'être précisé à chaque fois, qu'il y a toute la séquence moment Descartes, moment Freud qui a été ratée et qu'il faut peut-être rattraper, étudier, ingérer, assimiler et puis critiquer et la dépasser. Ce que, ça ne vous concerne pas puisque vous êtes un lecteur assidu de Gottlob Frege, de Whitehead, de Quine et de Montaigne, mais ceux qui se contentent ailleurs uniquement de Mulla Sadra Shirazi ou de Sohrawardi comme métaphysicien ou théosophe doivent aussi s'ouvrir sur l'ouverture dans une ouverture sur le monde à l'apport philosophique dit de la Renaissance.
Oui. Non, mais il y a beaucoup d'éléments dans votre question, mais il est vrai que on peut prendre un tour mystique ou de théosophie, de connaissances spiritualistes, pourquoi pas. Mais les noms que vous avez cités, Sohrawardi, Mulla Sadra, étaient férus de logique. Ils ont d'abord commencé par être beaucoup logiciens avant précisément de s'épanouir dans des formes plus spiritualistes. La même chose chez Ibn Arabi. Tous ces gens-là avaient un grand respect des méthodes dites rationnelles. Après, ils les ont fait bouger ailleurs. Et effectivement, il y a aussi, ce que je saisis de votre question, la nécessaire intégration entre différents courants et pas simplement l'intégration entre des aires culturelles. Et effectivement, au sein d'une même aire culturelle, il y a des intégrations qu'il faut viser et écarter les dichotomies. Cela dit, maintenant, vous savez, moi, les grands problèmes que je rencontre, c'est pas les problèmes de retard ou de quoi, c'est les problèmes de prendre en charge, que ce soit ici ou que ce soit de l'autre côté de la Méditerranée, au sérieux le travail de la pensée pour que se rende compte qu'en fait, c'est véritablement les idées qui mènent le monde. La molécule découverte, le film produit, c'est la conception. Et avoir sa part dans la conception, c'est très important. Et ne pas se ramener tout le temps à fabriquer ce que d'autres ont conçu. Délocaliser Renault et Peugeot, c'est très bien, mais concevoir, faire monter en gamme l'artisanat, que savent très bien faire ce pays duquel je viens, le Maroc par exemple. Voilà, avoir sa part dans la conception, ça va de l'artisanat jusqu'à la pensée supposée dite haute, métaphysicienne ou logique d'Averroès.
Et en science, même si certains ne voient pas où est l'intérêt, mais savoir que le boson de Higgs, même s'il a une présence infinitésimale, qu'il est là, ça aide dans la conception du monde, conception scientifique aussi et philosophique.
L'imam doit, dans son prêche du vendredi, dire aux musulmans « Allez comprendre le monde ».
Et c'est le rôle des imams, et les imams ne sont pas là uniquement pour des sermons, et ils sont là aussi comme des guides et des thérapeutes de l'âme. Merci Ali Ben Makhlouf.
C'est moi qui vous remercie.
Merci infiniment. C'était Question d'Islam et aujourd'hui nous avons reçu le philosophe Ali Ben Makhlouf pour parler de la force des raisons, des arguments, des preuves, notamment en logique et en médecine, et la contribution des philosophes arabo-musulmans au corpus du savoir universel. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission et Sylvia Favre. La prise de son était assurée aujourd'hui par Julien Domingue et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.